Yellow Blind, une chanson qui raconte le sentiment d'être perdu, d'être seul, et puis la recherche aussi d'une connexion, d'un sens à la vie. Voilà, c'était le groupe Counting Crows sur Europe 1. Et en écho à ce message d'espoir, il y a notre libre antenne. L'heure est aux confidences. Retrouvez des témoignages au micro d'Olivier Delacroix. Il vous accueille, je le rappelle, du lundi au jeudi, de 22h à 1h du matin sur Europe 1.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
D'où nous appelez-vous Antoine et quel âge avez-vous ?
Je vous appelle de Bordeaux et j'ai 38 ans.
Antoine, vous avez publié un livre, Rap et mathématiques. Deux choses qui me sont assez étrangères pour tout vous dire. Et vous allez m'expliquer ce qu'il peut bien y avoir comme rapport entre les maths et le rap. D'emblée comme ça, vous voyez, je vous demande.
Bah, à l'origine, il n'y a pas beaucoup de rapports, mais bon, on peut utiliser le rap pour réviser les maths, en fait.
D'accord. C'est ce que vous faites ?
Ben, c'est ce que j'essaye de faire. Hein. J'essaye de faire des chansons, de couvrir le maximum du programme du collège pour l'instant.
Oui.
Et pour aider les collégiens, justement, à réviser en chansons, en fait.
D'accord. Vous êtes prof, donc ?
Oui, je suis prof, ça fait 14 ans que je suis prof.
D'accord.
Prof de maths. J'étais prof en Seine-Saint-Denis au début pendant 7 ans, et puis là, ça fait 7 années que je suis revenu dans ma région bordelaise.
D'accord. Vous avez donc noté que certains élèves avaient des problèmes en maths ?
Oui,
comme
oui,
moi, enfin, par exemple. Bon, hein, je vous avoue que j'étais complètement nul en maths et que je n'ai jamais compris à quoi ça servait, en fait. Pour tout vous dire, hein. Donc pour vous dire que je suis très très loin. Ah mais je sais que ça sert à plein de choses. Non seulement je le sais, mais on voit aujourd'hui dans toutes les séries et les documentaires sont consacrés, par exemple à cette nouvelle industrie du net, combien les mathématiques sont importantes, combien il faut avoir l'esprit mathématique. Alors pas pour les créations de contenu, mais pour tout ce qui est fabrication de la technologie autour du numérique, en fait, il faut être très matheux, je crois.
Oui, oui, bien sûr. Bah, derrière toutes les applications, etc., déjà, se cachent les fonctions. Les fonctions, c'est la base des maths. Il y a plein de choses régies par les fonctions. Après, il y a plein de problèmes de proportionnalité, même de géométrie. Oui, les maths sont omniprésents, je dirais.
Alors, vous enseignez en Seine-Saint-Denis, c'est ça ?
J'ai enseigné en Seine-Saint-Denis pendant 7 ans.
D'accord.
Et là, maintenant, j'enseigne en banlieue bordelaise, à Blanquefort.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a donné cette envie et cette idée ? Est-ce que c'est parti de vos élèves qui souffraient de ne pas trop comprendre les maths, qui n'étaient pas très matheux, cette idée de leur faire découvrir les maths à travers le rap ?
Alors, c'est moitié parti de là, et puis moitié d'une idée qu'un ami m'a donnée. En fait, j'ai l'habitude, en fait, comme je fais du rap à côté, j'avais l'habitude d'animer plusieurs ateliers rap, en fait,
oui.
De faire écrire mes élèves, en fait, en association avec une MJC. Et je me suis lié d'amitié avec quelqu'un de cette MJC qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas des maths en rappant ?» et tout ça. Et donc, c'est vrai que cette idée, quand il me l'a soufflé, je me suis dit « Ah, pourquoi pas ?» Si on trouve une dimension pédagogique à un projet comme celui-là, pourquoi pas ? Et effectivement, c'est venu, en fait, en plus du constat de voir que mes élèves, que certains élèves décrochaient un petit peu en maths, qu'ils avaient de plus en plus de mal à ouvrir un cahier pour réviser. Et je me suis dit, pourquoi pas se lancer là-dedans ? Parce que quand on voit que les élèves ont du mal à ouvrir un cahier pour réviser, on se dit qu'ils en auront un peu moins à cliquer sur un lien pour écouter une chanson et leur rappeler toutes les notions d'un chapitre. Quoi.
Mmh. Est-ce que ça vous embête si je vous demande ce que ça peut donner en fait, des maths en rap ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'aimerais bien que vous m'en fassiez quelques phrases pour voir ce que ça peut donner, en fait, que celles et ceux qui nous écoutent...
Un petit freestyle en direct ?
Oui, un petit freestyle en direct, oui. Exactement.
J'espère que je ne vais pas me tromper, mais j'en connais une petite chanson.
Vous ne vous y attendiez pas que je vous demande ça, sincèrement ?
Non, mais on me l'a déjà demandé.
D'accord.
Donc, pourquoi pas ?
Qu'est-ce que vous écoutiez avant que vous nous interprétiez quelque chose ? Quelles étaient vos références à l'époque où vous écoutiez du rap ? Vous l'avez découvert à travers quel type d'artiste, le rap ?
Alors là, moi, j'écoutais beaucoup, beaucoup de rappeurs. Après, c'est tout... C'est... tous des rappeurs axés plutôt sur le texte, mais ce qui me vient à l'esprit, Oxmo Puccino,
ouais, Lino, excellent, excellent.
Voilà, j'adore Kenny Arcana aussi. Mmh. Enfin, il y a voilà tout. Plein de rappeurs différents, mais toujours axés sur le texte. Faut mmh. qu'il y ait du contenu pour que ça me plaise, en fait.
Est-ce que vous étiez un peu NTM?
NTM, j'ai écouté. J'ai pas mal écouté. Après, j'étais peut-être plus IAM que NTM, mais oui. Même, on va pas comparer, mais si, il y a plein de chansons que j'aime bien de NTM aussi.
D'accord, parce que je trouvais que NTM aussi, il y avait de très beaux textes hein, dans NTM.
Oui, bien sûr. Laisse pas traîner ton fils, c'est beau.
Excellent.
Il y a plein de beaux textes chez NTM, bien sûr.
Alors, vous avez vous allez nous interpréter un petit rap en maths pour qu'on voit ce que ça donne, en tout cas.
ça va changer de NTM, du coup.
Oui. Bah écoutez, il faut tout pour faire un monde.
bien sûr. Alors, ben pourquoi pas un petit texte sur la proportionnalité, alors, du coup.
D'accord.
Après, il faut savoir que je chante le texte, mais tous mes textes sont faits pour être illustrés avec un clip qu'il y a derrière. Donc, on comprend oui. vraiment avec le clip qui illustre la chanson, quoi.
Je comprends. Mais, ça va aller sans clip, là. Ça va aller sans clip.
Ouais. moi, ça va aller, moi. Mais après, c'est pour ceux qui suivent pour voir s'ils vont comprendre.
D'accord.
Donc, une chanson sur la proportionnalité, ça peut faire « Le gasoil a augmenté 15 litres, pourtant 3 euros. Combien ça va te coûter si tu consommes 58 litres ?» C'est de la proportionnalité. Soit tu fais un tableau, soit un retour à l'unité pour connaître le prix d'un litre. Dans ce couplet, on prendra la seconde possibilité. Pour ça, tu diviseras ton prix par ta quantité. Tu divises 33 par 15, 2,20 €, c'est le prix d'un litre. T'en voulais 58, tu fais de 20 fois 58. Et maintenant que t'as ton résultat. N'oublie pas de mettre ta phrase réponse si demain t'as interro sur ça. Des exos t'en fais de 3 et vas-y, fonce.
Excellent.
Voilà.
Ah, excellent. Je comprends pourquoi les mots ont adhéré tout de suite, parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre comme ça, en fait.
Je dirais que c'est beaucoup plus facile de réviser comme ça. Après, apprendre, il y en a pas mal qui comprennent, qui apprennent grâce aux chansons. Mais à la base, quand j'ai lancé le projet, c'était vraiment pour faire réviser, quoi. Parce qu'il y a des chansons qui sont un peu rapides.
D'accord.
Il y a des chansons, je les trouve un peu rapides pour apprendre et pour comprendre. Alors après, quand on va sur YouTube, on peut mettre x0,75 pour que la chanson aille moins vite. On peut faire des pauses, revenir en arrière. Donc, il n'y a pas de souci pour apprendre. Mais c'est vrai qu'à la base, le projet, c'était surtout pour les faire réviser, quoi, en fait.
D'accord.
Et tout à l'heure, on parlait du livre, et le livre, ça a été plus justement pour faire comprendre et apprendre plutôt que réviser, quoi.
Vous avez cherché, en fait, en mélangeant le rap avec les maths, vous avez déclenché quoi chez vos étudiants, en fait, chez vos collégiens?
Alors, j'espère avoir déclenché un certain engouement pour certains d'entre eux, quoi.
Oui.
Là, je pense que certains peuvent se raccrocher. Peuvent se raccrocher un petit peu à la matière en écoutant quelques chansons. Après,
qu'est-ce que vous avez senti après, en fait, Antoine, que cela provoquait chez les mômes?
Déjà, alors moi quand je les passe en cours, par exemple, il y a l'attention en fait. C'est vraiment ce qui m'a marqué moi. C'est quand je leur passe une chanson, bah il y a plus rien besoin de faire à côté. Il y a pas besoin de demander le silence, etc. L'attention, elle se fixe vraiment au tableau. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux chez un professeur quand on arrive à attirer l'attention des élèves. Donc ça, c'est moi je dirais la première chose. Fixer l'attention des élèves sur les notions qu'on a à faire passer. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose d'assez magique en fait. C'est la première chose. Après, si ça peut susciter l'engouement pour les révisions ou leur donner un petit peu de plaisir ou un peu désacraliser la matière des mathématiques, bah c'est toujours du plus aussi quoi.
D'accord. Est-ce que vous avez vu des élèves carrément adhérer et puis vraiment faire de gros progrès en maths avec cette méthode?
Alors j'en ai vu. Après moi j'ai pas tant d'élèves que ça différents chaque année. Mmh. Donc moi avec mes élèves c'est ce que je dis de temps en temps. Avec mes élèves j'ai vu certains élèves faire de réels progrès. Mais après je peux pas dire que c'est la majorité de mes élèves. Il y a ceux qui vont peut-être pas forcément adhérer. Il y a ceux qui en ont vraiment pas besoin. Donc du coup ils écoutent et ça leur apporte le fun en plus quoi. Mais et après il y a ceux vraiment que ça peut raccrocher. Et ça oui j'en ai vu chaque année il y en a au moins 3, 4, 4, 5 par classe, hein, qui ça fait une petite différence, et puis il y en a chez qui ça fait une grosse différence. Mais après, j'ai aussi quand même pas mal de retours sur les réseaux sociaux, vu que je poste sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube. Et là, ben là, du coup, ça touche plus de monde et du coup, j'ai plus de réactions. Et c'est vrai qu'il y a pas mal, il y a vraiment beaucoup d'élèves qui me disent « Ah, c'est grâce à vous que j'ai compris cette leçon » ou « En 3 minutes, j'ai réussi à avoir 17 sur 20 à mon interrogation », des choses comme ça. Donc, je sais que ça fait son effet sur certains élèves, ouais.
D'accord. Et ce sont plus les garçons qui étaient sous le charme, en fait, de ce rap, ou plus les filles, ou les deux?
Alors, vu les commentaires, je ne sais pas trop, c'est mitigé, mais quand je regarde les personnes qui me suivent, il y a un petit peu plus de filles qui me suivent que de garçons, par contre. Mmh, ouais.
Comment vous avez été perçu par le corps professoral, que j'imagine un peu coincé, un peu rigide, on va dire. Comment vous avez été perçu?
Alors, je découvre aussi les réactions au fur et à mesure. Moi, les premières réactions que j'ai eues, forcément, c'était « Ah, c'est génial, c'est super, il faut que tu continues ». J'ai montré à mon inspectrice la première année où j'ai lancé le projet. Mon inspectrice, directement, elle a adhéré, elle m'a dit « Allez-y, foncez, monsieur Ferrier, c'est super, on a besoin de ça ». Donc, toutes les premières réactions que j'avais, forcément, elles étaient bien. Après, bon, si je regarde tous les commentaires que j'ai eus, il y en a forcément, on va dire, 1% ou 1 pour 1000, qui vont ne pas être forcément d'accord avec la méthode. Il y a toujours certaines personnes qui ont des choses à dire. Après, c'est comme ça, quoi. Mais j'ai aussi, avec le recul, des personnes qui viennent me voir et qui me disent... par exemple, en fait, il y a une semaine, j'ai fait une conférence pour Matangine. C'est une sorte de congrès qui organise plein de choses pour les étudiants. Oui. Et j'ai fait une conférence devant 400 étudiants. Et puis les chercheurs sont venus me voir à la fin. Et puis il y en a un qui est venu me voir et il m'a dit « Non, mais moi, quand on m'avait dit « Math et rap », il dit « Je te dis honnêtement, j'ai même pas été écouté. »
Ah ouais, carrément.
Il dit, par contre, carrément. Ouais, voilà. Non, mais il a été honnête. Et puis il m'a dit « Par contre, j'ai écouté ta conférence et il me dit « Tu m'as bluffé. J'ai écouté les chansons parce que je leur ai passé 2-3 chansons pendant la conférence. » Il m'a dit « Non, mais ouais, c'est génial, en fait, ce que tu fais. » Et donc, c'est vrai que ça, on peut être réticent en entendant les mots rap et math en même temps, en se disant « Bon, ça va être encore du folklore ou pas forcément pertinent au niveau de l'apprentissage. » Mais c'est vrai que si on s'y penche dessus, j'ai essayé quand même d'être rigoureux à travers mes chansons. Je suis prof de maths, donc je sais quand même ce qu'il faut passer comme message. Oui. Et quand on s'y penche un peu, ben, on voit que ça peut aider pas mal de jeunes, donc tout est bon à prendre.
Oui, je suppose que c'est vraiment pour sensibiliser une certaine partie des mômes, le rap aujourd'hui, qui est quand même... je le rappelle, hein, à 84%, les ventes de disques aujourd'hui et de musique, hein, sur les plateformes, c'est pratiquement 84% des ventes. Donc, on comprend quel engouement ça a pu avoir. Alors, pour ceux qui n'étaient pas intéressés par cette méthode, comment vous faisiez? Est-ce qu'il y en avait?
Pour mes élèves?
Oui, pour ceux qui n'étaient pas intéressés par ce type de...
Bon, après mes élèves, moi je suis prof de maths, hein. C'est-à-dire que moi, les 90% de mes cours, ben, c'est les cours classiques, quoi. C'est-à-dire que je leur donne des cours normaux. Après, j'utilise mes rapématiques. S'il y en a qui adhèrent pas, ben, ils ont toute la partie du cours qui reste la partie classique abordée comme un professeur, comme un autre professeur, quoi.
Le livre a bien marché, rap et mathématiques, ça a bien marché?
Rapématique, ouais,
Rapématique, voilà. vous l'avez appelé?
C'est Rapématique, oui.
Rapématique, oui, d'accord.
Ma chaîne YouTube, c'est Rapématique, et puis le livre, c'est Rap et avec le Esperluette, là.
Ématique. Ouais, Ématique, aux éditions Larousse, hein.
Voilà, c'est ça, c'est les éditions Larousse, oui.
Vous avez... Allez-y, pardon.
Non, mais c'est pour répondre à la question, est-ce qu'il a bien marché, dans le sens, est-ce qu'il s'est bien vendu, ou est-ce qu'il...
Oui.
Là, pour l'instant, moi, oui, c'est vrai que les éditions Larousse m'ont dit qu'ils étaient plutôt contents du premier mois. Ils m'ont dit qu'ils restaient en tête des ventes pour les éditions Larousse Pratique. Donc, ouais, pour l'instant, il a bien marché. Et après, est-ce qu'il a marché dans le sens, est-ce qu'il est utile aux gens? Ben, j'ai eu pas mal de bons retours. Et,
ah oui, moi, je pense que c'est très utile.
Pour l'instant, j'en ai pas eu de mauvais. Ouais. Donc... voilà.
Et autre chose, votre chaîne YouTube, en fait, qu'est-ce que vous y postez sur votre chaîne YouTube?
Alors, sur ma chaîne Rapématique, vraiment, j'y poste que des rapématiques. C'est toutes mes chansons. Oui. Alors là, pour l'instant, toutes mes chansons sont de niveau collège. Mmh. Donc j'ai fait, je crois, une quarantaine de chansons qui se retrouvent à l'intérieur du livre, hein, avec des QR codes sur lesquels on peut accéder à ces chansons. Et donc du coup, c'est des chansons niveau collège. Et puis l'année prochaine, là, je suis en pleine écriture. J'ai commencé à enregistrer un petit peu, mais je commence à me mettre à faire des chansons au niveau du lycée, puisqu'on m'a pas mal demandé d'en faire. Après, moi, je suis prof au collège, donc mes réflexes c'était plus collège. Mais en me replongeant un petit peu dans tout ça, je me mets à faire des chansons au niveau lycée. Et puis ça change un petit peu, donc ça me fait plaisir.
D'accord, très bien. Ah bon, bah c'est super ça. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à me raconter qui au début, quand vous avez essayé de mettre cette méthode en marche, est-ce que vous avez des petites anecdotes à me raconter, je ne sais pas, sur des collègues ou sur des élèves? Est-ce qu'il y a des trucs qui, comme ça, vous viennent à l'esprit?
Des anecdotes particulières, j'en ai pas forcément qui viennent à l'esprit. Je sais que j'ai des élèves qui sont venus en chantant mes chansons. En chantant mes chansons et qu'ils avaient appris le refrain par cœur. Je sais que j'ai des profs aussi qui m'envoyaient des vidéos avec les élèves filmés de dos, forcément pour pas qu'on voit leur visage. Oui. Et ils me disaient, ah ben regarde, ils chantent tous ton refrain. Mm-hmm. Ça veut dire que les profs aussi les utilisent. Donc, après, voilà, au niveau des profs, des élèves, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu les retours que j'ai, quoi.
Ça a fait des adeptes dans d'autres collèges, d'autres profs utilisent ce type de méthode aujourd'hui?
Oui, il y a plein de profs qui les utilisent. Hein. C'était mon but que d'essayer de toucher un petit peu le public professeur, histoire que ça crédibilise un petit peu le projet. Histoire de que eux partagent le lien via les ENT des collèges. Via Pronote, etc. Envoient les liens à leurs élèves pour que leurs élèves puissent bénéficier des dérapématiques pour réviser, quoi. Et en fait, il y a plein de profs qui les utilisent.
Je pense que c'est une excellente idée, Antoine, pour vu le nombre d'élèves qui sont complètement hermétiques aux maths, je trouve que c'est vraiment une excellente idée, c'est vraiment fantastique.
Merci.
Fantastique.
Non, c'est vrai que j'ai des parents aussi qui me disent ça, ouais, mon fils n'aimait pas les maths, on révise grâce à vous, parce qu'il y a forcément aussi des parents un petit peu qui n'étaient pas forcément à fond dans les maths, ou alors soit qui ont oublié, et du coup, eux révisent aussi grâce à mes chansons, et puis ils révisent aussi, ça permet aussi de réviser ensemble, et de réviser en musique avec son fils, c'est un petit plus, quoi.
Ah mais c'est carrément énorme. C'est vraiment une idée fantastique. Vous avez publié donc le livre Rap Hématique, et vous êtes aux éditions Larousse, et vous êtes, pour info, avec chaque leçon, il y a un QR code qui permet de trouver la chanson et le clip sur YouTube. Je vous invite à vous rendre sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Rap Hématique, tout attaché, hein. Rapématique avec un accent aigu. Et puis si vous êtes un peu court en maths, ou si votre enfant est un peu court en maths, chers amis, eh bien n'hésitez pas à rejoindre cette méthode créée par Antoine, 38 ans, c'est jeune, vous êtes un jeune prof, plein d'idées. Et puis merci mille fois pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Antoine.
Merci beaucoup de m'avoir reçu, en tout cas.
Je vous en prie, bonsoir.
Oui, bonne soirée, au revoir.
Bonsoir, au revoir.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Bonsoir Lionel.
Bonsoir Olivier, bonsoir. Alors j'ai 49 ans et j'appelle des Hautes-Pyrénées. J'habite pas loin de Bagnères-de-Bigorre où vous êtes passé il n'y a pas très longtemps. Grâce à la libre antenne, je me suis un petit peu sauvé.
Ah bon? Racontez-moi ouais. Ça.
En fait, il y a 2 ans, je me suis séparé de la mère de mes enfants,
oui.
Avec qui je vivais depuis 28 ans. Donc, on a eu le projet maison, on a tout fait ensemble, des enfants merveilleux qui jouent au rugby d'ailleurs.
Oui.
Et du coup, moi, je l'ai hyper mal vécu. C'est mon premier amour, je l'ai connu à 19 ans. Et j'ai pris une gifle énorme. Mais on s'est séparés parce qu'on s'entendait plus. Vous voyez, c'est pas, y a pas eu autre chose.
Ça n'allait plus, quoi. Ça n'allait plus.
Ouais, c'est dès que les enfants sont partis, on s'est retrouvés tous les deux.
Oui.
Et voilà.
Bien sûr que si, ça arrive souvent, ça. Tant que les enfants sont là, il y a une unité familiale, il y a quelque chose, même de l'ordre de l'ennui, hein, qui n'est pas là quand les enfants sont là. Mais l'ennui s'installe un jour quand ils s'en vont. L'ennui s'installe dans un couple et il faut savoir se recréer et c'est très difficile. Très difficile.
Bon, en plus, qu'ils sont partis le même mois ensemble.
Oh là, ah oui, enfin, ça a dû être dur, ça. Hein.
Ouais, on a pleuré pendant un mois. On était. Enfin, moi, je suis papa poule. Et
ils sont partis pourquoi ? Pour leurs études ou
Non, il y en a un. Il a fini ses études et il a pris un logement, son premier logement. Oui. Et le petit était gendarme, donc il a été. Il est parti dans le nord de la France. Donc les deux, le même mois, ils sont partis.
Oh là, ça a dû être dur pour vous, ça.
Ça a été une page qui s'est tournée. Ça a été dur. Et donc, du coup, deux, trois mois après, on se supportait plus. Et on s'est séparés, quoi.
Bon, et donc, mais, grosse claque.
Vraiment, moi, je l'ai très, très mal vécu. Les enfants plus ma compagne, mais en fait, j'ai sombré doucement dans l'alcool. En fait.
Oui.
C'est-à-dire que comme je suis hypersensible en fait. Je suis quelqu'un d'assez émotif, hypersensible, et donc le fait du manque de mes enfants et de ma compagne, je prenais de l'alcool et je partais au lit. Pour dormir. Cette bêtise.
Dépression. Bêtise. Vous avez fait une dépression.
Dépression.
Ben oui.
Oui, c'est ça. Je passais mes journées à dormir ou pleurer.
Quel âge vous avez, vous m'avez dit, Lionel ?
J'ai 49 ans.
Oh là, vous êtes jeune en plus, dis donc. mais quoi, vous preniez de l'alcool dès le matin ? Vous preniez de l'alcool ou...
Non, pas du tout. Mais alors non, parce que je travaillais, en plus j'avais un boulot que j'adorais. Ouais. J'ai travaillé pour la Comédie musicale de Lourdes.
D'accord.
Et je rentrais en moto, je faisais de la moto.
Ouais.
Et je rentrais le soir et j'étais tout seul. Et là, je buvais à ce moment-là.
D'accord. Ouais.
Et pour partir au lit. Mais non, la journée, je ne buvais pas, par contre.
D'accord, ok.
Et donc, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh là là, je vais glisser dans l'addiction.
Oui.
Ouais. Je m'en suis rendu compte. Donc, je me suis vite précipité sur un centre d'addictologie, pas loin de chez moi. Et du coup, j'ai fait quelques groupes de paroles. J'ai vu un infirmier. Mais un jour, en rentrant de la Comédie musicale de Lourdes, je suis rentré chez moi. J'ai bu de l'alcool. J'ai repris la moto. Et j'ai eu un grave accident.
Mais
un très, très grave.
Très grave, vous êtes fait quoi ?
Ben en fait, j'ai eu 37 fractures.
Oh là là, d'accord.
4 fractures ouvertes.
Oh là là.
Poumon perforé.
C'était il y a combien de temps, ça ?
C'était il y a 2 ans.
D'accord.
Il y a 2 ans. Et j'ai fait un an de rééducation.
Là-bas, à Bagnères-de-Bigorre, dans l'hôpital où je suis allé, là.
C'est ça.
Ouais, bon, vous remarquez, vous étiez pas loin, vous avez eu votre accident, et puis boum, à Bagnères-de-Bigorre, vous avez de la chance d'avoir un centre hyper performant pour ça.
Mais oui, en plus, le cadre est quand même sympa.
Ah bah, c'est bien, puis j'ai rencontré le personnel là-bas, d'ailleurs. Comment elle s'appelle, comment il s'appelle, ce centre ?
Alors, il y a le centre de l'Arbison, qu'on appelle,
oui.
qui est en haut, et en bas, je crois que c'est le CH...
J'étais en bas. Oui. J'étais en centre-ville.
Oui. Oui, c'est ça, au centre-ville.
Voilà.
C'est là où il y a des graves...
Et il y a une équipe de soignants...
ils sont chouettes.
Formidables. Là, je dois saluer la jeune femme qui s'occupe de la communication aussi, qui nous a accueillis. Voilà, tout le monde nous a super accueillis. Puis bon, j'ai pu parler avec des patients qui étaient là qui étaient là depuis un moment, certains depuis 6 mois, 8 mois, enfin.
Il y a des pathologies un peu longues. Ouais.
Mais bon, revenons à vous. Donc, vous êtes resté.
Oui.
Vous êtes resté un an là-bas.
Un an, ouais. Ouais.
Ah bah ouais. Vous avez découvert la Libre Antenne là-bas, à l'hôpital ?
Non, pas du tout. Je la connaissais il y a 2 ou 3 ans, je vous écoutais déjà il y a 3 ans.
D'accord, d'accord.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, en fait, vous vous êtes planté tout seul ou...
Oui. En fait, si vous voulez, moi j'habite à 2 kilomètres de chez ma mère.
Ouais.
Je suis rentré de la comédie musicale, je me suis douché, et j'ai bu, et ma mère m'a demandé de passer. Et j'avais pas envie de sortir la voiture. J'ai dit, de toute façon, que ce soit la voiture ou la moto, j'étais en état d'ébriété de toute façon.
Ouais, ouais.
Et j'ai traversé mon village. Et à 1 kilomètre de chez ma mère, la courbe, je l'ai ratée. Je suis rentré dans une maison.
Oh là là.
Alors, j'étais à 50 km/h, c'était pas très vite.
Non, mais à 50, mais ça tape. Hein. Ça tape.
Ah ouais.
J'ai eu un accident à 60, moi, l'autre jour. Je peux vous dire que j'ai volé.
Ah, oui.
J'ai volé. Hein. Et heureusement, vous savez quoi, j'avais un gilet airbag.
Ah ouais.
Ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé.
Mais oui.
Mais je peux vous dire que j'ai volé comme un oiseau. Hein. Et je fais 97 kilos, 96 kilos. Donc, je suis quand même un bon bébé, quoi. et je peux vous dire que j'ai décollé, mais comme si j'étais une petite balle de plastoc, là. Ping !
Ah ben, on n'est rien. Hein.
Ah, on n'est rien du tout.
On m'a dit que je m'étais écrasé comme un moustique, on m'a dit. Ah, mais oui.
Et finalement, tout roulé, puisque vous m'avez dit hier soir très bien vous entendre avec votre femme. Donc, c'était quelque chose que vous n'aviez pas visiblement préparé.
Mais alors, pas du tout, parce que ça nous est tombé assez vite, parce que ces petits ont fait le grand, il a 25 ans et le petit 21 ans. Le grand a fait des études et il a fait une licence et le petit a fait un BTS et après il a fait son concours de gendarmerie et en fait ils sont partis tous les deux en même temps. Et on s'est retrouvés avec mon ex-compagne. Vraiment, ça nous est tombé vraiment très rapidement. Et en fait, on était triste, vraiment très très triste, parce que le grand est parti faire sa vie. Il a pris une maison, un appartement, enfin il est parti. Et le grand est monté dans le nord de la France. Et on s'est retrouvés tous les deux. Ce qui nous était jamais arrivé depuis la naissance des enfants, depuis 25 ans, quoi. Et en fait, on était triste. Moi, je ne travaillais pas à l'époque, parce que je m'étais blessé au niveau du dos, donc j'étais en maladie. Et quand ma compagne rentrait, elle, du travail, eh bien on arrivait à s'engueuler, alors qu'on ne se voyait pas de la journée, et on ne se supportait plus. Mais non, on n'avait pas du tout prémédité ça, ça nous est tombé comme ça dessus, on ne se supportait plus.
Et ça se traduisait comment, par exemple, le fait de ne plus se supporter?
Mais en fait, on se faisait des reproches.
Oui.
Alors moi, admettons, elle rentrait, je préparais à manger, et elle me reprochait, admettons, de l'attendre trop tard, et parce que moi j'avais besoin, comme je travaillais pas, j'avais besoin de parler à quelqu'un, et elle était fatiguée de sa journée, elle voulait juste se doucher et aller au lit, et moi je l'attendais, je lui disais, mais non, du coup c'était des engueulades vraiment pour rien du tout, mais c'était juste qu'on se supportait plus, quoi. On ne vivait plus de la même façon. C'est-à-dire que moi, avant, je m'occupais des enfants, je les faisais manger, je m'occupais d'eux, du sport, tout ça. Elle avait son travail, puis d'un seul coup, boum, ça a changé un petit peu nos habitudes, en fait. Et voilà, on s'est séparés. Mais c'est même moi qui ai demandé la séparation.
C'est moi.
C'est moi parce que, en fait, ça me rendait triste de vivre ça. Et je pensais que me séparer, ça allait aller mieux. Peut-être même, je voulais peut-être faire juste un break. J'avais pensé à ça au départ.
Oui.
Mais en fait, non. Non, on s'est séparés. Et là, pour moi, ça a été la descente aux enfers, quoi. C'était... 2022-2023, ça a été les années les pires de ma vie. C'est la séparation, en fait.
Vous vous êtes retrouvé tout seul face à vous-même, en fait. Hein, plus d'enfants.
Exactement.
Plus d'enfants, plus de femmes, plus de. C'est très dur, la séparation. Hein, Il faut vraiment le vouloir, vous voyez.
Ouais.
Il faut vraiment, lorsqu'on se sépare, bien évidemment, quand je dis le vouloir, c'est-à-dire avoir bien réfléchi. Et souvent, malheureusement, hein, souvent, on ne réfléchit pas aux conséquences de la séparation.
Ah mais non, pas du tout. Parce que moi, j'ai pris un appartement dans le même village. Mais moi, j'étais sûr de moi. J'ai dit, ça va aller mieux. Mais non, c'était pire. Parce que je m'étais jamais retrouvé seul. Et elle me manquait terriblement. Après, à la suite, j'ai vu un psy. On m'a dit que j'étais dépendant affectif, en fait. Donc...
Vous en pensez quoi de ça? Que vous êtes dépendant affectif, c'est vrai?
C'est vrai. Oui, j'en suis. C'est clairement ça dans ma vie. J'ai toujours été dépendant affectif. J'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés, quelqu'un que j'aime. Voilà, mes enfants me manquaient, elles aussi. Et en travaillant sur ce sujet-là, on m'a dit que j'étais dépendant affectif. Voilà, et que j'étais hyper sensible.
Souvent, on a du mal, lorsqu'on est un homme, à entendre ce type de choses. Beaucoup d'hommes ont du mal avec cette réflexion. Du fait d'être hypersensible, c'est synonyme de fragilité. Or, être hypersensible, vous voyez, moi je le suis, et ça n'est pas obligatoirement être faible, c'est une qualité, je trouve, d'être.
Je l'ai appris. Après, parce que moi je dis hypersensible, oui, c'est vrai que c'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en tant qu'homme, en fait, puisque nous, on a la responsabilité d'une famille, vous savez, voilà, c'est ça. Et quand on m'a mis des mots comme ça, j'ai compris pourquoi je souffrais autant. Et du coup, moi je me suis retrouvé tout seul et je me suis mis dans la boisson à boire. De manière mécanique.
Qu'est-ce que vous buviez?
Alors c'était de la bière, beaucoup de bière, du vin.
D'accord.
Ouais. Mm-hmm. Je mélangeais les deux, vin, bière, jusqu'à être sous, à tomber par terre. Ouais. En fait, j'étais bien au travail, mais dès que je me retrouvais seul, c'était fini. Là, c'était... j'assumais pas du tout... de plus voir mes enfants, plus voir mon ex-compagne, et je me trouvais seul, et en fait, seul avec moi-même, comme vous me disiez.
Oui.
Et du coup, je buvais. Et un jour, en 2022, si vous voulez, en 2020, j'ai été voir une comédie musicale à Londres avec ma compagne, et c'est une comédie musicale, je suis vraiment tombé sous le charme de cette comédie, j'y suis pas. On n'en ressort pas indemne. J'ai été très très ému par cette comédie.
Oui.
Et en fait, quand je me suis séparé, j'ai dit, je vais postuler pour aller travailler là-bas parce que ça m'avait fait du bien de le voir.
Oui.
Et en fait, j'ai été pris et ça m'a vraiment fait du bien de travailler avec eux.
Vous nous expliquez, Lionel, que vous aviez donc vu cette comédie musicale et vous avez décidé de postuler pour cette comédie musicale. Mais vous m'avez parlé de Lourdes. Cette comédie musicale allait se jouer à Lourdes?
Alors en fait, c'est une comédie musicale qui raconte la vie de Bernadette Soubirous. Alors il n'y a rien de catholique dans cette comédie musicale, c'est juste... ils évoquent les apparitions de la petite Bernadette Soubirous.
Oui, oui, oui.
Et donc, en fait, ils ont retracé toute sa vie et ils l'ont mis, je crois que c'est Lionel Florence qui a fait les textes et Grégoire qui a fait la musique. Et ils ont mis ça en scène et ils ont reproduit la grotte de Lourdes dans la salle. Et ils ont juste raconté l'histoire de cette petite fille. Et c'est vraiment excellent. J'ai même des amis à moi qui sont pas du tout catholiques, qui sont même d'autres communautés, d'autres religions. Mm-hmm. Je les ai amenés et ils ont été complètement abasourdis de voir qu'ils sont sortis émus, quoi. Donc Et c'est génial, d'ailleurs, elle est en tournée dans toute la France en ce moment.
Oui.
Parce qu'au début, elle était qu'à Lourdes, et maintenant, ils sont en tournée, quoi. Et malheureusement, j'ai pas pu le partir avec eux, et c'était mon grand regret aujourd'hui, quoi.
Parce que alors vous n'avez pas vu, non je l'ai pas vu, mais vous n'avez pas pu partir en tournée avec eux pourquoi oui. À cause de l'accident.
Oui, c'est ça.
D'accord.
En fait, je travaillais moi je suis pas du tout acteur ni musicien ni chanteur hein.
Oui.
Je m'occupais du placement des gens où je flashais leur ticket d'entrée, vous voyez, je travaillais avec eux.
Ouais, vous étiez un peu plus dans le côté régie, en fait.
C'est ça. Alors, moi, je crois que j'avais un petit contrat de 3 heures, mais j'ai resté 10-12 heures par jour, tellement j'adorais travailler avec eux. Et voilà, je prenais même des affiches, je les placardais dans tout le département, je voulais que tout le monde la voie. Je prenais des flyers, je les mettais dans tous les... Dans toutes les villes, partout, j'essayais de le faire connaître tellement c'était génial, quoi. Ouais. Ça m'avait fait du bien. Mais je continuais quand même à voir.
Bon, et vous continuez, continuez à voir, parce que le soir, vous étiez bien évidemment seul. Seul.
C'est ça. C'est pour ça que j'ai resté au maximum de temps. On se demandait pourquoi j'ai resté autant de temps, parce que j'avais peur de rentrer chez moi, et parce que je savais que j'allais pas être bien.
Ouais.
Et ça, donc, c'était en mars. Et malheureusement, en avril, encore un souci. Ma maman m'appelle, me dit que mon père est hospitalisé.
Oui.
Parce qu'il a des problèmes respiratoires. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Et deux jours après, il est décédé. Il a fait une infection pulmonaire. Alors je dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc la séparation... Mon papa qui s'en va, et donc bien sûr, mais j'allais plus du tout bien, donc je buvais encore plus. Et malheureusement, en rentrant du travail au mois d'août, en montant chez ma mère pour la voir, j'ai eu ce grave accident de moto.
Oui.
Et qui m'a coûté très très cher, quoi. Très très cher.
Oui, vous m'étonnez qu'il vous a coûté très très cher.
Ah oui, oui, oui. Et pendant que j'étais hospitalisé au centre à Bagnères, donc, de Bigorre, j'ai la mère de mes enfants qui venait régulièrement me voir quand même. Vous voyez, on était séparés, mais on s'entendait bien. Et elle venait tout le temps me voir, tout le temps. Et j'ai même cru, à la sortie... j'aurais pu peut-être me remettre avec elle si vous voulez. J'y croyais.
Ah
parce
oui,
que là, j'étais.
Oui,
Bien sûr, comme j'étais à l'hôpital, j'étais plus du tout sous l'emprise de l'alcool. Et je suis sorti donc en février 2023. Et je lui ai demandé si on pouvait se remettre ensemble. Et là, elle m'a dit qu'elle avait appris à vivre seule pendant un an.
Oui.
Et qu'elle ne voulait pas se remettre avec moi, qu'elle était bien seule. Voilà. Alors là, redescente aux enfers.
Dégringolade.
Je suis reparti dans l'alcool. Et là.
C'est fou parce que vous n'aviez pas une tendance à l'alcool avant du tout, Lionel.
Et pas du tout. Aucune. Non. Pas du tout. Non. C'est, j'arrivais pas à gérer mes émotions. Et en fait, je buvais pour oublier, partir au lit et vite passer à autre chose, quoi. C'était le travail, boire et dormir.
Ouais,
c'était une escalade de bêtises incroyable. Et en plus, mes enfants, que j'adore, se sont un peu tournés de moi. Ils me comprenaient pas. Ils passaient plus me voir à la maison. Je les croisais, ils me disaient juste bonjour, mais aucun dialogue. Donc là, c'était de pire en pire. Et je les voyais que le dimanche au rugby, quoi. Mais c'était juste bonjour et c'est tout. Alors, là, c'était terrible, terrible. Je savais plus comment m'en sortir, quoi. Et justement, juste avant l'accident, 4 jours avant, je me suis rendu dans un centre d'addictologie.
Oui.
Et je leur ai dit que je basculais sur une... une pente un peu glissante et dangereuse, parce que je sentais que j'allais, j'arrivais pas à le contrôler, si vous voulez.
Oui.
Bon, malheureusement, j'ai eu cet accident. Et j'ai repris après, en sortant de l'hôpital, j'ai repris bien sûr la boisson. Je me suis rendu au centre d'addictologie, donc un an après. Et je leur ai dit, il faut m'aider. Mais on ne trouvait pas, on pédalait un petit peu jusqu'au jour d'octobre où j'écoute la libre antenne et là, ça a changé ma vie. Ça, vous avez changé ma vie, Olivier, et cet auditeur dont je ne connais même pas le prénom. C'était en octobre ou novembre. J'étais dans mon lit et j'écoute cet auditeur qui a des problèmes d'alcool. Mais alors lui, le pauvre, c'était sévère parce que je pense qu'il avait bu pendant 40 ans de sa vie.
Ah oui, oui.
Et il avait fait plusieurs cures qui n'avaient pas eu de succès, si vous voulez. Ils replongeaient à chaque fois. Il parlait de craving. Alors que je l'ai cherché sur Internet, c'est des pulsions irrévocables, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller boire, en fait. Ils appellent ça une craving, c'est anglais.
Je prends souvenir de lui, il avait de gros problèmes de santé en plus, hein, de foie.
Oui, c'est ça.
Oui. Un monsieur de Bretagne, je crois, il me semble me souvenir qu'il
oui.
était de Brest.
Mais disons qu'elle mémoire.
Ah, mais j'ai une mémoire d'éléphant.
C'est ça.
Ça me rassure.
Ah oui, non,
beaucoup.
Mais c'est ça.
Oui, oui, c'est mes. oui, oui.
Non, mais c'est vrai.
J'écoute, hein, quand je dis j'écoute. Je me souviens très bien de ce monsieur qui nous avait appelé et qui était sobre depuis 2 ans, je crois. Il avait enfin réussi.
Voilà, tout à fait. Ben dis donc. Mais ce monsieur, avec vous m'avez énormément aidé, puisqu'il parlait de ses cures et qu'il replongeait, que ça ne marchait pas.
Et il avait tout perdu. Il avait tout perdu, cet homme.
Ah ouais, lui, tout perdu. Alors lui, pire que moi-même. Son médecin, un jour, lui propose un médicament que l'on appelle le médicament du dégoût. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ingère ce médicament, eh bien, en fait, on ne peut plus boire d'alcool. C'est-à-dire que dès qu'on ingère un verre d'alcool, eh bien, on peut avoir une espèce de tachycardie, enfin, le cœur qui s'accélère, une baisse de tension devient rouge, on peut tomber dans les pommes. Enfin, il y a une multitude d'effets secondaires qui peuvent être très graves. Mmh. D'ailleurs, à la suite de votre émission, moi j'en ai parlé moi à mon médecin pour. J'ai dit je veux ces médicaments parce que je suis pas assez, j'ai pas assez de caractère pour éviter d'aller en chercher de l'alcool. Et je pense que ce coup de pied aux fesses, c'est ce médicament qu'il me faut. Et alors donc on le donne pas comme ça, donc j'ai dû voir un psy. Et des prises de sang pour voir ce médicament, si vous pouvez l'accepter, si vous voulez. Et donc, toutes les analyses ont été bonnes. Et depuis le 18 janvier, où c'est que j'ai commencé ce médicament, eh bien, j'ai arrêté de boire. Je suis sobre depuis le mois de janvier. Et ma vie a complètement changé, quoi. Moi, j'y croyais pas et vraiment, c'est pour ça en fait que j'avais appelé juste pour vous dire merci parce que c'est grâce à vous. Et aujourd'hui, je suis un homme pétillant, je suis un homme en pleine forme.
Quel bonheur
qui a retrouvé le sourire. Ouais.
Mm-hmm. Magnifique.
Mais mon Dieu, que l'alcool, c'est un fléau.
Ah, c'est terrible.
C'est terrible. Ça change un homme.
Ah, c'est terrible.
Ah ouais.
L'alcool, c'est terrible, Lionel. Je pense que, bien évidemment, on parle de la cocaïne et de l'héroïne, mais d'abord, on parle du premier fléau. Hein. On parle du premier fléau, la première addiction, hein, puisque la France, étant un pays en plus à tradition. De bonne chair, de tout ça, il y en a partout de l'alcool. Et puis je vois.
Le problème, c'est la libre accès à ce produit.
Ah, mais vous savez, là où j'habite, je vois dans un supermarché où je vais faire mes courses, je vois le nombre de personnes qui achètent des flashs de vodka, de whisky tous les soirs. Là, c'est terrible. C'est terrible.
Ouais.
Et on est en train d'avoir une politique, si vous voulez, aujourd'hui, de punition des consommateurs de drogue, mais la première des drogues, et qui est aussi terrible que la cocaïne, que l'héroïne, c'est l'alcool. Je peux vous dire que, vous le savez, vous qui êtes passé par là, on n'a rien, enfin, quelqu'un qui est malade d'alcool n'a rien à envier, vraiment rien à envier à celui qui est accro aux autres drogues. C'est fou, mais c'est malheureux. C'est malheureux.
Oh là là, ah ouais. Et c'est incroyable les dégâts qu'on peut faire autour de soi, parce qu'en fait, on se détruit, et mes enfants l'ont vu, et ma mère l'a vu, j'ai fait beaucoup de mal à ces personnes-là.
Mm-hmm. Et c'est à vous que vous avez fait du mal en premier, vous savez.
Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et ça, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier.
Non, c'est vrai. Ouais.
Mais oui.
Mais par contre, maintenant que je ne bois plus, mes enfants sont revenus me voir. Bah, je les vois pratiquement tous les jours. Avec mon ex-compagne, on se voit, on boit le café ensemble, on s'entend bien. J'ai changé de vie. Je suis tellement bien. Et c'est génial. Je remercierai jamais assez. Européen, ce monsieur, et vous, bien sûr.
Oui, mais remerciez-vous vous-même en premier, Lionel, parce que vous savez, c'est important, dans ce que vous avez vécu, de vous remercier, vous, en premier, et d'être fier de vous, parce que vous revenez de très, très loin. Et ça, c'est vous qui l'avez fait, ce chemin. C'est vous qui l'avez gagné, cette bataille. C'est ça qui est extraordinaire.
C'est vrai que mon médecin me dit les mêmes choses.
Ah bah oui.
Il est fier de moi, il me le dit tous les jours. On dirait que j'ai gagné, vous savez, une compétition presque.
Mais oui, mais c'est une compétition.
C'est un combat. Hein.
Ah mais oui, c'est un combat.
Ouais.
C'est un combat énorme. Vous savez, si vous écoutez la Libre Antenne, vous voyez le nombre de personnes qui nous appellent et qui ont encore cette problématique. Je pense à Farid qui nous a appelé l'autre jour, accro à l'alcool et aux benzos, ce qu'on appelle des benzos, c'est tous ces médicaments contre l'angoisse et tout. C'est extrêmement difficile de se sortir de là. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et malheureusement... malheureusement, aujourd'hui, cette addiction est l'une des pires qu'il y ait. L'une des pires qu'il y ait.
Oui. Et en plus, on a un peu honte d'en parler. C'est un peu tabou. Moi, je voyais les gens qui, comment on appelle ça, en groupe de parole, souvent, ils venaient dans les centres d'addiction, pas par choix. C'est parce qu'ils tombaient soit malades et ils arrivaient en cure, ou alors... c'était la justice qui leur demandait.
Oui. Parce que malheureusement, en plus...
On me disait que c'était extrêmement rare. J'étais un cas un peu rare de vouloir faire la démarche de moi-même. Mm-hmm. C'est souvent... c'est pas leur choix, eux. Et c'est peut-être pour ça que ça marche pas, des fois. Si on l'a pas dans la tête, ils venaient malgré eux, quoi.
Ouais, puis souvent, on vient dans ces centres, comme vous dites, contraints parce qu'on a une injonction de la justice, parce qu'on a eu un accident de voiture, parce que on a été violent avec sa femme ou ses enfants. L'alcool, vous le savez, hein, l'alcool modifie le comportement, malheureusement. C'est terrible, terrible. Bon, mais ça, c'est génial que vous ayez réussi ce combat, comme vous dites. Alors, vous dites qu'aujourd'hui tout va bien. Tout va bien, donc aujourd'hui, c'est...
Ouais, je suis heureux.
Ouais, vous êtes heureux, vous.
Il y a juste un truc qui me manque. J'aimerais, c'est retravailler pour cette comédie musicale. Mm-hmm. J'aimerais, s'il y a un des deux producteurs qui m'entend, moi je postule, il n'y a pas de souci, je reviens avec eux.
Mm-hmm. Vous avez repostulé plaisir. Vous avez repostulé, justement?
Non, pas encore, non.
Mais
non, je ne l'ai pas fait.
Faites-le.
C'est compliqué d'avoir... c'est Roberto Curlo et Léonore de Galard qui s'occupent de ça, mais je n'ai pas du tout leur numéro, je ne sais même pas comment faire.
Ah oui.
Je ne sais pas comment postuler. Je l'avais fait quand ils étaient à Lourdes, j'avais été les voir, c'était plus facile. Maintenant qu'ils sont en tournée, je ne sais pas du tout comment faire.
D'accord.
Alors là, Voilà.
Parce qu'ils étaient... à Lourdes et vous êtes passé les voir à Lourdes, c'est ça ?
Oui, exactement, j'ai été au culot, ouais. Je suis tombé devant Roberto Cuirlo, qui oui. est producteur de comédie musicale, qui avait travaillé, je crois, en Énergie. Et j'ai été le voir, c'est quelqu'un de formidable, et je lui ai posé la question, il m'a dit, mais bienvenue. Mais comme ça, ça s'est fait comme ça. Et après, avec l'accident, j'ai plus eu aucun contact. J'ai perdu contact avec eux et je ne sais même pas comment postuler pour aller les revoir. Quoi. Ça serait génial, mais je vais essayer de chercher, je vais bien trouver. Hein.
Oui, vous allez trouver. Et puis, si ça se trouve, l'appel que vous lancez ce soir va être entendu, hein, vous savez.
Ça serait tellement bien.
C'est comme ça, c'est comme ça que les choses se font. Vous savez, quand on arrête de boire, quand on...
Oui.
Quand on revient dans la vie, et bien finalement, on s'aperçoit que tout est plus facile. Tout est plus facile. Tout est.
Oui, c'est vrai.
Mais vraiment, hein. Il faut bien que celles et ceux qui sont encore dans cette addiction et qui nous écoutent ce soir le saisissent.
Oui.
Quand on ne boit plus d'alcool, quand on ne se drogue plus, tout devient plus clair. Et la vie, c'est clair. Moi, je vais vous dire, au Narcotique Anonyme, on m'avait promis une chose, c'est que si je devenais abstinent, eh bien, il y aurait plein de choses qui se passeraient dans ma vie, de belles choses, de bonnes choses. Et c'est ce qui s'est passé.
C'est vrai ?
Mais oui. Quand vous arrivez aux Alcooliques Anonymes ou aux Narcotiques Anonymes, d'abord vous êtes la personne la plus importante, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que nos quatre nouveaux membres que nous accueillons dans cette communauté de la Libre Antenne sont les plus importants, c'est toujours les petits derniers qui sont importants et qu'il faut accueillir. Et puis, la chose qu'on vous dit, c'est que si tu continues, tu finiras à l'hôpital, dans le meilleur des cas, ou en prison, un autre meilleur des cas, ou au cimetière. Par contre, si tu arrêtes, si tu deviens abstinent, on te promet que tout va s'éclairer. Vraiment, les choses s'éclairent au fur et à mesure. La vie vous offre des événements heureux, des mains tendues. Et puis, c'est grâce à vous, au final. C'est grâce à vous, parce que vous devenez une personne claire, directe. Alors, bien évidemment, ça n'est pas facile d'affronter la vie au début sans artifice, parce que les artifices, bien évidemment, on les prend souvent pour se stimuler, hein, pour affronter une réalité qui est trop dure. Mais finalement, on s'aperçoit que cette réalité, elle est beaucoup plus facile à affronter sans rien. Mais il faut en prendre l'habitude. Il faut en prendre l'habitude.
Moi, ça m'a donné une pêche, j'arrête pas... Je bricole, je ressors, je reste plus dans mon lit, je suis un autre. Enfin, quand je dis à mon médecin je suis un autre homme, il me dit non, vous êtes l'homme que vous devriez être sans alcool. En fait.
Ouais, vous vous êtes rencontré. Quelque part, vous vous êtes rencontré.
Voilà. C'est ça.
Et oui. Ouais, c'est bon hein, de faire sa propre rencontre, hein, quand même.
Ah ouais, excellent.
Puis vous êtes dans une belle région, Bagnères de Bigorre, c'est ça?
Bagnères de Bigorre, oui.
Bagnères de Bigorre.
C'est la région qu'on appelle le département. On est les Bigourdans.
Les Bigourdans.
Ouais. Dans. Bigourdans.
Bigourdans, d'accord.
Ouais.
Bon.
Et voilà. Mais d'ailleurs, si il y a des gens dans le 65 ou aux environs qui ont besoin de me parler, vous pouvez leur donner mon numéro de téléphone.
D'accord.
Je serai là pour les aider et les aiguiller, pour leur dire que je suis une preuve vivante que ça peut marcher. Mm-hmm.
Et vous savez,
vous
qui nous écoutez, vous qui nous écoutez, chers amis, c'est très important ce que dit Lionel, lorsqu'on veut se sortir de l'addiction, et là, je parle de n'importe quelle addiction, même comme Farid, l'autre jour, nous parlait de cette addiction aux médicaments, aux benzos, eh bien, c'est très important ce que Lionel dit. Il faut vraiment prendre conscience qu'on ne s'en sort jamais tout seul. C'est impossible de s'en sortir tout seul. Alors, il faut commencer à s'appuyer sur celles et ceux qui vous tendent la main et vous proposent leur aide et vont vous montrer un petit peu le chemin que eux-mêmes ont pris avant vous et qui les a menés à la sobriété, à être abstinent. Parce que c'est possible d'être abstinent, c'est possible. Donc, aujourd'hui, c'est encore un message très lumineux que vous nous livrez, Lionel, et pour cela, je vous remercie beaucoup. Ne manque plus que vous rencontriez une nouvelle femme dans votre vie, et puis voilà.
Ça, on va attendre un petit peu.
Oui, attendez, voilà, il ne faut pas
viendra.
Se presser.
Je pense que ça viendra tout seul. Bon. Et voilà, si vous voulez donner mon numéro, n'hésitez pas.
On le donnera, avec plaisir. On le donnera.
Vous avez Florian.
Ouais,
c'était génial.
Il vous écoute et il y a beaucoup de SMS pour vous, Gaëtan, Irène, Sabrina, Eric, Patrick, Hélène qui vous félicite Lionel pour votre témoignage et pour votre combat gagné. Passez une bonne soirée et puis n'hésitez pas à me redonner des nouvelles, hein. Vous connaissez le chemin maintenant, d'accord?
Merci de m'avoir écouté, Olivier.
Mais je vous en prie. Et merci puis j'en beaucoup. Profite pour saluer tous les gens qui habitent votre belle région de Bagnères, de Bigorre.
Merci.
Bonsoir, Lionel.
Merci pour les Hautes-Pyrénées. C'est sympa. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir.
Merci beaucoup.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739-21.
En commençant par le mot nuit.
75 centimes plus coût du SMS.
Bonsoir, Stéphanie.
Bonsoir, Olivier.
Quel âge avez-vous, Stéphanie, et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 48 ans et je vous appelle de Normandie.
Vous appelez sur le conseil d'une amie?
Oui.
Pourquoi cela?
Parce que je suis dans une affaire vraiment très délicate. Je me sens un peu seule, mais c'est comme... et puis, j'ai peur pour mon enfant.
D'accord.
Donc, je me dis qu'en appelant, et puis peut-être pour aider d'autres gens à ne pas faire les mêmes bêtises que moi. Voilà, je me dis si au moins notre histoire, elle peut servir à d'autres. Voilà. Donc, est-ce que peut-être je commence?
Je sais pas.
Je suis un peu intimidée.
Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
Et en même temps émue, parce que voilà. Donc, moi, je me suis retrouvée avec mon enfant qui s'est fait agresser par des voisins assez salement. Hein, c'est un peu glauque l'histoire. Et donc, j'ai été conviée par la gendarmerie à aller porter plainte le lendemain après-midi. Et je précise l'après-midi parce que dans la matinée, eux, ils ont fulmenté un internement. C'est-à-dire, ils ont demandé au maire et à une personne de ma famille un peu jalouse et qui on s'entend pas, enfin voilà, qui s'est fait un plaisir de signer pour me faire interner. Ce qui fait que quand je suis venue à la gendarmerie pour porter plainte, je me suis retrouvée peut-être un quart d'heure après, hein, même pas, entourée de quatre pompiers qui m'ont sommé, menottée ou non, de les suivre en hôpital psychiatrique.
Incroyable. Alors, votre fils a été agressé dans quelles circonstances exactement? Que s'est-il passé?
Alors, c'est-à-dire il avait 3 ans.
3 ans?
Et, oui, 3 ans. Donc, c'est pour ça que je vous dis même de vous raconter ça, ça me fait trop bizarre. Donc voilà, moi je suis une mère célibataire, je fais école à la maison, donc je suis tout le temps avec lui. Et donc j'ai des voisines qui avaient installé une piscine. Et ce jour-là, j'essaie de ranger un petit peu ma cuisine et tout. Et c'est vrai que le petit loulou, bah, à 3 ans, il ouvre les tiroirs, vous rangez un truc, il sort les lentilles de l'autre côté, etc. Donc j'ai une voisine qui passe, puis qui me dit, bah écoute, tu nous laisses la piscine. Tu me laisses de petites heures et puis tu viens de rechercher après, comme ça tu pourras manger tranquillement ta maison. Voilà. Je sais pas si je suis vraiment obligée de donner tous les... Vous vous doutez bien un peu dans quel genre d'histoire on se retrouve. Il était avec une petite gamine de 4 ans. Voilà. Donc je vais pour expliquer tout ça à l'agent.